L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne, l'AJT du local. Nous sommes le jeudi 27 mai et je suis accompagnée d'Emma. Comment ça va aujourd'hui ?
Salut Claire, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien aujourd'hui. Un peu de soleil, les quelques éclaircies.
Oui, oui. Un peu de chaleur là, ça fait du bien. Mais malheureusement, cette émission a un goût amer, car c'est ta dernière, Emma, avant de voguer vers d'autres horizons. Du coup, je crois qu'aujourd'hui, tu nous as réservé une chronique assez spéciale autour de la musique, je crois.
Oui, un peu. On va allier environnement et musique, mais je vous laisse découvrir ça un peu plus tard.
Eh oui, ne nous en dis pas plus, on a hâte d'écouter tout ça. Mais juste avant au programme, on va parler du nouveau projet de l'ARS pour le sport, et ça s'appelle « On y va ». On discutera écriture de premier roman avec Jean-Yves Moisier, son livre « La fille de San Gimignano ». Bon, je vous laisserai l'écouter et le prononcer mieux que moi, parce que là, pour l'instant, c'est pas trop ça. Et après, la chronique d'Emma, on terminera avec le feuilleton et un nouvel épisode du Festival des Trois Éléphants à Laval et leur adaptation à la crise sanitaire. C'est à retrouver en fin d'émission.
Mais tout de suite, Claire, un point sur l'actualité. Un courrier au ministre de la Santé pour dénoncer la suppression de lits dans les hôpitaux en Mayenne.
Le député Guillaume Garot a décidé d'alerter Olivier Véran après le signal lancé par le syndicat Force Ouvrière qui a indiqué que, faute de personnel, les hôpitaux mayennais s'apprêtaient à fermer 200 lits ou services en juillet et août. Pour le député mayennais, il n'est pas acceptable que la variable d'ajustement consiste à supprimer des lits et à dégrader l'offre de soins pour chacun, surtout dans un département déjà frappé par la désertification médicale. Fin de citation.
Une cérémonie à Laval pour la Journée nationale de la résistance.
Elle a eu lieu ce matin à 11h, Square Foch, en présence du préfet de la Mayenne, d'élus et de représentants de forces de sécurité, associations d'anciens combattants et victimes de guerre de la Mayenne. En raison des conditions sanitaires, cette cérémonie s'est déroulée sans public.
L'URMA Mayenne propose de découvrir ses formations ce samedi.
Lors d'une journée porte ouverte sur ses 4 sites à Laval. Pour permettre de découvrir les métiers de l'alimentaire, du soin, de l'électricité, du tertiaire, du bâtiment, de la mécanique ou encore de l'hôtellerie-restauration, à cause des conditions sanitaires, la visite se fait sur inscription via le site URMA, U-R-M-A, Pays de la Loire, tout attaché, .fr.
Miam, la Mayenne est à croquer, une opération prolongée.
Après le succès de l'an dernier, c'était évident pour le département de renouveler l'opération. Le principe, après l'achat d'un billet dans un site touristique, vous bénéficiez de 10 euros dans un restaurant du département. 20 000 bons vont être imprimés, un moyen de soutenir les acteurs locaux du tourisme, comme de la restauration, et de leur donner un coup de pouce nécessaire pour cette sortie de crise sanitaire. Il y a déjà 50 restaurants et 32 sites touristiques partenaires. L'opération se déroulera du 9 juin au 15 septembre.
Et il est encore temps de réserver vos places pour la folle journée à Château-Gontier.
Le festival de musique classique en région y fait escale pour la première fois lors d'une édition dédiée à Bach et Mozart. Concert prévu ce vendredi et samedi à 19h au Théâtre des Ursulines. Prix du ticket 6 euros sur réservation auprès de l'Office de Tourisme au 02 43 70 42 74.
Première annonce chez les tangos et c'est un revenant.
Kevin Perrot revient la saison prochaine au Stade Lavallois. C'est loin d'être un inconnu puisqu'il a été formé par le club avec lequel il a déjà joué près de 200 matchs. Il a signé pour 2 saisons plus une en option. Le footballeur a passé 2 ans au Puy avant de revenir à Laval sur la volonté du président Laurent Léry qui voit en lui un ambassadeur pour montrer l'exemple auprès des jeunes.
Coup d'envoi ce jeudi des boucles de la Mayenne
qui se dérouleront en 4 jours jusqu'à dimanche. Première étape des cyclistes aujourd'hui dans la partie nord du département entre le Genest-sur-Isle et Ambrières-les-Vallées. Parmi les favoris, le champion de France, Arnaud Démare et Brian Coquart, vainqueur de l'édition 2016.
Et Claire, dans les Pays de la Loire, on peut accéder au dispositif On y va.
Projet lancé par l'Agence régionale des santé de Pays de la Loire, il permet un accès au sport sur ordonnance par le médecin pour les personnes souffrant de maladies chroniques et sera totalement remboursé. Une plateforme internet ainsi que les maisons de santé proches de chez vous pourront vous permettre de prendre votre rendez-vous. Une raison de plus pour se mettre au sport, surtout quand la motivation baisse, notamment à cause du confinement. Nicolas Durand, directeur adjoint de l'ARS Pays de la Loire, nous explique pourquoi le projet a été lancé.
On a besoin de reprendre le sport ou l'activité physique pour le plaisir et pour la santé, parce que, et ça c'est la science qui le dit, c'est aussi l'OMS, l'activité physique et sportive permet de prévenir un grand nombre de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, certains cancers, le diabète de type 2 et le surpoids et l'obésité. Ainsi, je ne l'oublie pas, en cette période particulière, la santé mentale. Donc, le sport est bon pour la santé, pour tout le monde, mais particulièrement pour les personnes qui vivent avec une maladie chronique, puisque, comme je disais, ça permet de prévenir l'apparition et aussi de prévenir l'aggravation. Ça permet de réduire la mortalité, de réduire les risques de complications, de récidive, d'atténuer les douleurs, d'améliorer la qualité de vie. Et ce qui fait que l'INSERM, dans une expertise collective en 2019, disait que c'est un véritable médicament de prévention et de soins pour les malades chroniques. Alors, ce que dit la loi, c'est la loi du 26 janvier 2016, qui permet aux médecins traitants de prescrire une activité physique aux patients qui sont en affection longue durée, qui a été complétée par un décret. Donc, le cadre est posé maintenant depuis quelques années, mais voilà, il ne suffit pas que le cadre soit posé, il faut aussi le mettre en œuvre, organiser ce qu'on appelle le parcours du patient et accompagner les acteurs. Et donc, c'est ce à quoi nous employons depuis 2019 avec la DRAGES et puis avec un grand nombre d'acteurs. On y va, en fait, ça vise, comme vous l'avez compris, à mettre en lien, à accompagner les principaux acteurs de ce parcours de santé. D'un côté, les professionnels de santé, de l'autre, les professionnels de l'activité physique adaptée, et tout ça au service des patients.
Et prescrire du sport, c'est déjà ce que fait le docteur Arnaud Chambellin, pneumologue au CHU de Nantes.
Dans les maladies respiratoires, ça fait maintenant plusieurs décennies, au moins deux en tout cas, qu'on accompagne nos patients dès lors qu'ils présentent des symptômes, essentiellement l'essoufflement, dans cette prise en charge en insistant sur la modification de leur comportement au quotidien et un engagement beaucoup plus régulier à la reprise dans un premier temps, c'est-à-dire la réadaptation respiratoire. C'est un stage qu'on leur propose au départ afin de les sensibiliser à un certain type de savoir et de savoir-faire à acquérir. Et puis, on essaie au mieux de les accompagner dans la durée sur cette pratique régulière de l'activité physique qui leur fait tellement de bien et qui est vraiment le traitement non pharmacologique essentiel à l'optimisation de leur prise en charge. Je trouve que ce dispositif est une chance très, très appréciable et qui sera, je pense, franchement très apprécié du monde médical de la région, parce que effectivement on manquait d'un outil qui nous serve à suivre dans la durée nos patients, à les inciter, à les accompagner.
Roland est atteint de BPCO, une maladie chronique respiratoire. On lui a prescrit du sport depuis 5 ans maintenant et c'est essentiel pour lui.
C'est un bien dans ma vie de tous les jours. Pour marcher dans ma chambre quand je me lève le matin, à la cuisine, ça me fait des pas, ça me permet d'être moins essoufflé. Pour m'habiller, pour faire ma toilette, pour tout ce que j'ai à faire dans une journée, quoi. Pour moi, l'activité physique, hein, ça repousse ma vie. Hein. C'est-à-dire ça repousse ma mort, c'est-à-dire que ça prolonge ma vie. Ça n'a pas été facile à mettre en place. Pour aujourd'hui, maintenant que je le fais, ça fait 5 ans, je voudrais dire que c'est indispensable. Quand je suis arrivé en stage de réhabilitation, alors on fait un stage de... Enfin, oui, on fait un petit truc de... Un essai, là, de les 6 minutes par forcé. J'étais à 270 mètres et au bout de 7 semaines, quand je suis sorti du stage, j'étais à 450 mètres. Pour vous dire que le bienfait que peut faire l'activité physique.
Si vous êtes atteint de maladies chroniques ou si vous êtes professionnel de santé ou professionnel du sport, tous les renseignements sont à retrouver sur le site onyva-paysdelaloire.fr.
Nous on revient dans quelques minutes avec la rappeuse et poétesse britannique Kate Tempest et son titre The Beigeness.
Hat, to the kiddie in a Rooney shirt dragging back the curtains in the room in her daddy's flat. A young girl heard the truth and an alley cat howling on the roof next door. Imagine that all your idols were just like you. Nothing's beyond you, do what you want to do if you feel that it wants you to. Look, true never meant nothing more than it means right now when everything's fake. But you and your deepest reaches keeping secrets know what it takes to make a meaning mean something. I'm moving through a space that some can't see. I know this space exists, so do you. Your heart beats in the oldest groove. Life is huge, but we have shrunk it, we've made it small. We used to walk tall, but who cares, right? We're having a ball. Yeah. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, you speak to me. Them things you hide ain't hiding, no firm ground.
nod your head and believe that until it's true. You can tell it not to show its face when you are trying to hold your space, but it's in you, deep in your sinews, and it comes out on the coldest days. See the kid with the memory he can't shake. See the man with the lover on his mind. See the lady with the guilt and the heartache. See the woman trying to battle with time. See the man with the blood on his hands. See the girl with her hands on her hips. Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things that haunt you, let them be. That thing you weep for, leave it. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it. You're so focused on finding the differences, you ignore the bonds that bind us. Got my hand on my heart when the rhythm hits. It's looking for us but can't find us. In the valley of vanity viciousness, full schedules and empty containers. We're kissing the cautious that cripple us, enjoying the beigeness. Do it your way and I'll find you ridiculous. Pick apart your behavior. Their scorn ignites what inhibits us, and then we hate ourselves. And our fear pickles us, sitting in jars cause it's safer. Some of us are happy to live with it, but some of us know it's against our nature. Them things you don't show, I can see. Them things you don't say, speak to me. Them things you hide, ain't hiding. No firm ground, but we ain't sliding. Them things that haunt you, let them be. That thing you weep for, leave me. All life is forward, you will see. It's yours when you're ready to receive it.
C'était Kate Tempest sur l'autre radio.
Et il vient de publier son tout premier roman. Ancien géographe habitant à Montsûr, Jean-Yves Moisy s'est lancé dans l'écriture à la retraite à l'été 2019. Un an et demi plus tard, son livre est disponible dans les librairies du département sous le titre énigmatique La fille de San Gimignano. Désolé, c'est toujours pas bon la prononciation, mais on va l'écouter. Un roman policier que son auteur est venu nous présenter justement.
Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Moisy. J'habite en Mayenne depuis une quarantaine d'années et donc j'ai travaillé sur le département et en particulier en m'occupant de développement économique avec les collectivités locales, avec les chambres consulaires.
Et donc on est ici pour parler de votre premier roman policier. Comment vous en êtes venu déjà justement à l'écriture et en l'écriture d'un roman qui plus est ?
Ben je me le demande encore, mais voilà, c'est venu un jour. J'ai beaucoup écrit dans ma carrière, mais des choses très différentes. Des rapports, des discours, des articles de presse. Et puis un jour, je me suis mis devant mon iPad et puis j'ai commencé à écrire une histoire et je me suis dit, mais pourquoi pas aller jusqu'au bout de cette aventure ? Et puis c'était parti comme cela.
Justement, quand on se met à écrire, est-ce que vous vous êtes... astreint à une discipline très, très stricte, c'est-à-dire j'écris absolument 5 heures par jour, ou pas du tout, c'était en fonction de votre inspiration. Comment est-ce que vous avez travaillé ?
Alors c'est très différent, parce que quand on lit par exemple Stephen King qui donne des conseils pour écrire un roman, et en particulier les romans policiers, il vous dit qu'il faut écrire tous les jours, les jours de vacances, les jours fériés, se lever à heure régulière, travailler pendant 2-3 heures. J'étais pas un Stakhanovitch de l'écriture, je ne m'enfermais pas dans un bureau avec le paquet de cigarettes et le café. J'écrivais à n'importe quel moment de la journée, quand j'avais un peu d'inspiration, même dans le bruit, il y avait les enfants, les petits-enfants autour de moi, et je pouvais me mettre à écrire.
Donc là, il faut être très concentré, j'imagine, ça vous aviez cette capacité-là ?
Je l'avais surtout la nuit. Même si je suis un peu insomniaque, mais je ne me levais pas la nuit pour écrire. Mais tout cela tournait dans la tête, quelquefois avec des moments angoissants, en se disant « mais je me suis trompé, c'est pas très cohérent par rapport à ce que j'ai écrit 30 pages avant ». Et puis le matin, bah voilà, ça repartait, et puis j'écrivais un nouveau chapitre.
Donc un nouveau chapitre de ce livre, La fille de San Gimignano, si je prononce bien, c'est ça ?
San Gimignano, oui.
Avec l'accent, c'est toujours mieux. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous... dresser en quelques mots l'histoire de ce livre.
Alors le titre est un peu énigmatique et comme dans tout roman policier, on ne le comprend que assez tardivement dans... Alors l'histoire, le pitch, il est assez simple. C'est un commandant de la police judiciaire qui est contraint, sous la menace de représailles envers sa compagne, de suivre un inconnu. et on lui demande, on l'oblige à aller dérober un document dans la villa d'un député. Un député qu'il connaît puisqu'il a travaillé pour lui et que c'est le père de son meilleur ami. Et quelques jours après, dans le parc de cette propriété, on retrouve un cadavre. Est-ce un crime passionnel? Est-ce une vengeance? Ou un assassinat politique comme le redoute le gouvernement? Et c'est là, effectivement, qu'on va se lancer dans le mystère de la fille de San Gimignano.
Et alors, comment vous est venue cette idée, en fait? Par quoi est-ce que vous avez été inspiré?
Alors, je dois dire que ce n'est pas un livre qui a été écrit pendant le confinement. Beaucoup ont écrit pendant le confinement. Il a commencé en août 2019 sur une idée. Voilà, j'en ai souvent, mais je ne vais pas jusqu'au bout de la réalisation. Et puis, je trouvais que le fil était intéressant à tirer. J'avais le fil rouge. Il me restait à bâtir l'histoire autour parce que je ne savais même pas comment le roman finirait. Donc, il s'est construit au fur et à mesure. Et il a été écrit. Et c'est un peu comme... Mon épouse était sage-femme, alors je vais faire le parallèle, c'est comme une grossesse. J'ai écrit pendant 9 mois et le bébé est sorti au bout de 9 mois.
9 mois là aussi, puisque si vous dites que vous avez commencé à écrire en été 2019, il y a eu d'autres temps derrière, de relecture aussi j'imagine?
Oui, il y a eu d'abord un temps de repos, de sédimentation. Il faut effectivement à un moment quitter le roman pour mieux le reprendre, parce qu'il faut quelquefois reprendre les textes, être juste sur les mots. Et puis, j'avais mis en place un petit comité de lecture de personnes qui ont pu me donner à un moment leur avis. Alors, j'avais 7-8 personnes, et ce n'était pas simplement des amis, parce qu'ils sont toujours bienveillants, mais j'avais un libraire, j'avais un ami journaliste écrivain, et ils m'ont fait leurs remarques. Et puis, j'ai profité aussi de ce temps pour envoyer le manuscrit à des maisons d'édition. Et alors là, je veux dire, c'est le parcours du combattant. En plus, j'arrivais au moment du confinement, donc ça veut dire que les manuscrits, les maisons d'édition n'acceptaient plus de manuscrits, les librairies étaient fermées, puisque ce n'était pas une activité essentielle, paraît-il, qu'il n'y avait plus de salon du livre, il n'y avait plus d'événements, et donc le manuscrit, je l'ai envoyé, mais voilà, sans grand retour. Par contre, je l'avais présenté au concours Nouvelle Plume de France Loisirs, et les commentaires et les notes qui m'ont été attribuées m'ont incité à lancer la publication à compte d'auteur.
Parce qu'il y a toujours ça, j'imagine, c'est aussi le plus difficile de trouver un éditeur qui accepte, ou en tout cas de le faire à compte d'auteur, mais c'est vraiment la publication qui est le plus difficile peut-être?
Ah ben c'est un travail, d'abord parce qu'il a fallu que je le mette en page, dis moi-même, et il y a un peu de complexité quand on met en page un roman. La couverture, elle a été réalisée par ma fille, Juliette. Et puis, je dis souvent, c'est un livre en circuit court, parce que j'ai souhaité qu'il soit aussi imprimé en Mayenne et distribué dans des librairies en Mayenne. Il a été imprimé chez Jouve, à Mayenne, et puis il est diffusé aujourd'hui dans quelques points de vente sur le département.
Ça, c'était important aussi pour vous qu'on puisse, en tout cas au niveau local aussi, le retrouver, puisque vous êtes vous-même Mayennais.
Oui, il est diffusé dans ma commune, bien évidemment, à Montsûr, et puis à Évron. Et puis j'ai choisi deux librairies indépendantes, Aime Lire à Laval, et puis Aime Lire à Château-Gontier, qui sont des gens qui valorisent les auteurs locaux et qui, pour Aime Lire Château-Gontier, accepter qu'une séance de dédicace ait lieu, puisqu'elle aura lieu le samedi 5 juin. Donc j'en suis ravi, ça va me permettre d'aller à la rencontre de lecteurs futurs ou qui ont déjà acheté le livre.
Il y a une question que je voulais vous poser, que je ne vous ai toujours pas posée. Pourquoi vous êtes lancé plus spécialement dans le roman policier? Est-ce que c'est une lecture que vous avez beaucoup, ou c'était ce qui vous intéressait le plus?
Alors, je suis un amateur de romans policiers. Dès très jeune, j'ai commencé à lire des Agatha Christie, bien évidemment, des James Hadochez, et puis, dans la période plus récente, des auteurs comme Fred Vargas, parce que je précise que c'est d'abord un roman policier qui est dans la pure tradition du polar. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que le lecteur se mette à la place de l'enquêteur. Alors, il y a bien sûr des indices, des faux indices, des vraies pistes, des fausses pistes. Il y a des rebondissements. Mais voilà, c'est un travail qui convenait mieux à ma philosophie. Et en tout cas, ce n'est pas un roman noir. Ce n'est pas du Granger, du Migné, du Tilliez, qui sont dans un autre domaine. Et puis, voilà, l'envie d'écrire m'intéressait. Écrire sur le département, on me l'a souvent suggéré. Mais je voulais sortir un peu de ce cadre. Et puis, un roman autobiographique n'aurait intéressé personne. Je me connais même assez mal pour pouvoir en parler. Et étant plutôt quelqu'un de cartésien, l'enquête policière est intéressante parce qu'elle se construit. Il faut vraiment la construire. Il faut qu'elle soit logique, qu'elle soit cohérente. Et donc là, c'est un travail un peu scientifique.
Après, vous le disiez aussi, par contre, il faut que ce soit logique et donc que vraiment tout concorde jusque dans les moindres détails. Finalement, c'est pas le plus facile. Alors, je dis pas qu'il y a une écriture qui est plus facile qu'une autre, mais en tout cas, ce choix de faire un roman policier avec cette construction, ça vous obligeait vraiment à faire attention à chaque petit détail. Est-ce que vous êtes pas mal revenu parfois sur certains chapitres ou sur certaines zones de l'histoire ?
Oui, je suis revenu constamment. Réécrire des chapitres, en rajouter pour amener à cette cohérence. Et je dois dire, on parlait de quelques nuits angoissantes, et c'est vrai que quand je me réveillais en disant, mais il y a 30 pages, j'ai écrit cela, mais quand je regarde la date de naissance du père, Frey, qu'il aurait été père à 15 ans, ce qui n'est pas logique. Et donc il faut réécrire et il faut s'obliger à vraiment mettre sur le papier des dates de naissance, des événements, de façon que ça ne se télescope pas. Parce que c'est un roman que j'ai voulu, un roman de fiction, bien évidemment. Alors, je parle de politique, je parle de députés. Alors, certains y verront peut-être des petits clins d'œil, mais il y a forcément des petits clins d'œil. Mais c'est pas une histoire réelle, c'est une fiction. Mais elle s'inscrit dans un environnement réel, dans l'environnement d'aujourd'hui, avec des événements actuels, des événements passés. Mais c'est la pure fiction. De toute façon, on sait très bien que la réalité, des fois, dépasse largement la fiction.
Et je me demandais par rapport au lieu justement où se passe l'histoire, est-ce qu'on est en Italie vu le titre du roman ou absolument pas ?
Non, on n'est pas en Italie. Et ceux qui souhaiteraient faire une visite touristique de San Gimignano, c'est pas dans ce livre qu'ils trouveront. Non, c'est une enquête qui se déroule entre Paris, puisque ce commandant, il est à la APJ, ce qu'on appelle le Bastion, anciennement le Quai des Orfèvres à Paris, et puis la Bretagne. Donc voilà, certains qui connaissent la région de Dinard, par exemple, s'y retrouveront. Donc j'ai voulu faire une enquête à ce niveau-là. Et San Gimignano est évoqué, et c'est un élément qui reste un élément mystère dans ce livre.
Qu'on découvrira évidemment à sa lecture, en tout cas. J'imagine que là, donc ça y est, le premier livre, il est écrit, on peut même le retrouver en librairie. Est-ce qu'il y en a déjà un autre qui est né dans votre tête ?
Eh oui, il y en a deux autres. Un qui n'est pas un policier, l'autre qui peut être le retour de ce commandant et pour une autre enquête. Il faut que je prenne un peu de temps, d'espace entre celui-ci, puisque je suis en promotion de l'ouvrage, pour faire en sorte que, éviter de faire un copier-coller, bien évidemment. Donc j'ai l'idée de départ, après il faut savoir l'exploiter. Ça débouchera, ça débouchera pas. C'est tout l'intérêt. Je suis pas pressé, c'est pas mon métier, et je le considère aussi avant tout comme une approche personnelle, un plaisir d'écrire, pour permettre, quand on est arrivé à l'âge où on n'est plus en activité professionnelle, de continuer à faire travailler un peu les neurones, s'obliger. Et moi, j'aime bien les mots, j'aime bien les gens comme De Vos, comme François Morel, etc., qui manient la langue française, et pouvoir continuer à travailler sur des expressions, sur l'orthographe, sur la grammaire. Je trouve que c'est très intéressant.
Et Jean-Yves Moisy sera ce samedi en dédicace à la librairie Aime-Lire à Laval, mais aussi le samedi suivant, samedi 5 juin, chez Aime-Lire Anjou à Château-Gontier.
Ne bougez pas, on revient juste après la pause musicale assurée par Ben Mazué et son titre évidemment.
Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Moisy et j'habite
Désolé,
en Mayenne depuis...
on va mettre la musique tout de suite.
Elle n'avait pas l'air de savoir tout ce qu'elle était jolie. Un reliquat dans son histoire, une timidité maladive. Délicat dans mon costard, séducteur nullissime. J'ai trouvé des mots bizarres pour proposer un rencard, puis j'ai fui. Elle a dit oui, elle a dit ou, parfait. Après quelques mots balbutiants, j'en pensais autant pour son cou que pour ses phrases. Évidemment, évidemment, il s'en est valu d'rien pour que nonchalamment je lui dise des trucs très engageants dès le début. Évidemment, tant de clichés faisaient la queue au bord de ma bouche. Mais je me suis tué pour pas faire louche à première vue. Au
douce, mais plus que moi, douce. Des pieds aux pouces et mis, sais-tu ce que moi j'endure quand tu dévoiles en bout de ta peau jasmin. L'évidence, moi je connais pas, je doute même de ma propre existence. Pourtant, t'es posté là, si je m'écoute, on prend la route, on leur dit tous bon vent. Pas de raison, pas de projection, c'est pas d'un partenaire dont j'ai besoin, ni d'un passe-temps, non, moi j'ai pas ce talent. Va juste installer mon nom dans le tien. Évidemment, y'a 40 000 épreuves qui arrivent, et bien souvent, je dis parfait, avant qu'il pleuve ou qu'on vacille. Évidemment, d'habitude l'instinct, je l'ai jamais, on a dû geler, sûrement, je me dis. Et là je l'ai, alors je le suis. Elle a dit oui, elle a dit ou parfait. Après quelques mots balbutiants, j'en passais autant pour son cou que pour ses phrases. Évidemment, évidemment, il s'en est valu d'un rien pour que nonchalamment je lui dise des trucs très engageants dès le début. Évidemment, une tonne de clichés faisait la queue au bord de ma bouche. Je me suis tué pour pas faire louche la première fois. Évidemment, les 40 000 épreuves qui arrivent, bien souvent, je dis parfait, avant qu'il pleuve ou qu'on vacille. Évidemment, d'habitude l'instinct je l'ai, jamais on a dû geler, sûrement je me dis, mais là je l'ai, alors je me suis.
C'était Ben Mazoué avec évidemment dans l'agité du local.
On continue avec toi Emma et une dernière chronique que tu nous as réalisée aux petits oignons.
Dernière chronique en effet et on va finir ce petit rituel en musique et tout de même toujours vers l'environnement avec des artistes qui ont consacré des musiques à notre planète et au comportement que nous avons à son égard. On commence avec la chanson All the Good Girls Go to Hell de la chanteuse américaine Billie Eilish avec plusieurs messages dans sa chanson mais aussi dans la vidéo qui va avec. Dès le début, on retrouve la chanteuse prisonnière d'une flaque noire gluante avec les ailes qu'elle a dans le dos qui se retrouvent collées à cause de cette substance. Scène qui rappelle les marées noires, véritable catastrophe pour la planète. Dans les paroles, on retrouve des références aux feux de Californie qui ont décimé de nombreux hectares sur leur passage, ainsi qu'à la montée des eaux, comme en témoigne cet extrait.
The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
Elle souhaite notamment que l'on arrête d'ignorer ce qui se passe autour de nous et qu'il serait temps d'agir plutôt que de se laisser surprendre par ces catastrophes. La chanteuse s'est d'ailleurs engagée à organiser ses tournées de façon plus durable, alors à voir.
Avant, les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans la.
C'était la voix mélodieuse de Pomme et ce titre c'est Sequoia, un titre qui fait référence aux déforestations mais aussi au fait que ces arbres que l'on pensait indestructibles au vu de leur grande résistance commencent peu à peu à s'abîmer et à s'épuiser à cause des dérèglements climatiques qui persistent. Le réchauffement climatique a engendré des sécheresses de plus en plus féroces, ce qui impacte la flore qui dépérit peu à peu. Une artiste norvégienne maintenant qui se mobilise tous les jours pour l'écologie, c'est Aurora. Cette chanteuse a sorti en 2019 le titre The Seed, une ode au mouvement écologique qui se veut aussi agir comme une piqûre pour rappeler au monde que ce problème qu'est l'environnement concerne tout le monde et qu'un jour il sera trop tard pour le renverser.
Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand.
so the flowers can grow back again. 'Cause just like the sea, everything.
Dans ce que l'on vient d'écouter, Aurora, c'est un proverbe indien qui dit « Quand le dernier arbre aura été abattu, le dernier poisson pêché et la dernière rivière empoisonnée, on réalisera que l'argent ne se mange pas. » Aurora confronte les gens et leur fait prendre conscience que si nous n'agissons pas maintenant, alors quand ? Et aussi que l'argent ne pourra pas toujours nous sauver. J'aurais pu faire 5 minutes rien que sur la musique d'Aurora, tellement on y retrouve des images fortes, et dans la vidéo aussi, elle reprend notamment des images de manifestations pour le climat et des vidéos de nature déchaînée, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir.
Merci beaucoup Emma, et on va tout de suite écouter ça, donc Billie Eilish, Pomme et Aurora, on fonce sur YouTube, regardez les clips et écoutez, merci beaucoup, on te retrouve de toute façon juste après pour les initiatives, et nous, on continue avec une nouvelle formule pour le Festival des Trois Éléphants à Laval. Compliqué cette année d'organiser des concerts en plein air en centre-ville, mais pas question d'annuler une nouvelle fois l'événement. Alors l'association organisatrice POCPOC s'est adaptée en misant sur la décoration au cœur du centre-ville, sur un week-end dédié aux arts de la rue, et ce sera ce samedi et dimanche, et sur une exposition au Jardin de la Périne. Exposition qui a demandé un long travail de sélection parmi les riches archives du festival. Balade guidée avec Anaïs Garnier et Simon Hermine, en charge de la communication pour les Trois Éléphants.
Alors, on a voulu faire un peu une rétrospective sur le festival. Donc, il y a des photos qui débutent vraiment depuis la création du festival à Lassay-les-Châteaux, en passant par l'arrivée à la Plaine d'Aventure, et des photos qui sont plus actuelles aujourd'hui sur la place de RC à Laval, dans le centre-ville. Donc, il y a vraiment des photos qui représentent tout le festival, que ce soit le côté un petit peu artistique, des photos donc de concerts, des photos de foule. Il y a aussi toute la partie art de la rue et tous les à côté en fait, du festival, donc plus, des portraits. Il y a vraiment une globalité en fait, de choses sur le festival. Il y a une petite notion chronologique sur le début de l'expo, où justement on va partir un peu de Lassay, puis pour aller ensuite vers l'évolution du festival avec son arrivée à Laval. Et puis après, c'est plus des petits pôles où on va mettre quelques artistes à droite, à gauche. Enfin, on a voulu mixer un petit peu quand même les différentes sortes de photos pour que ce soit plus agréable et plus ludique aussi.
La première photo, du coup, commence en 2004, même si le festival a été créé en 98. C'est une période où c'est compliqué de retrouver les archives. On a réussi à retrouver des photos argentiques qui ont été numérisées. On reconnaît derrière le clocher de Lassay-les-Châteaux, certainement. Notre objectif avec cette exposition, ouais, complètement, c'est que le public qui a l'habitude de venir au festival puisse le voir d'une manière différente avec ce qu'il ne voit pas forcément. Et puis pour les gens qui ne connaissent pas du tout le festival, de le découvrir aussi et de se rendre compte qu'il s'y passe beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de concerts, beaucoup d'art de rue, que ça touche un public qui va de 4 ans jusqu'à 100 ans. Ça nous a permis de nous replonger un peu dans l'histoire du festival. Et puis c'est des chouettes temps aussi d'équipe et associatif, parce qu'on l'a fait évidemment à plusieurs pour pouvoir collectiviser un petit peu ce travail-là. C'était assez agréable, même si c'était un peu émouvant et un peu dur psychologiquement aussi, de retrouver toutes ces photos de fêtes, de gens sans masque, de gens qui boivent des bières devant des concerts. C'est toujours un peu compliqué émotionnellement parfois sur la durée, quoi. Là, on arrive dans un petit pôle un peu spécifique où on a vraiment une thématique où, pour le coup, c'est pas mal de photos de portraits d'artistes, tout en noir et blanc. Donc on a par exemple là, sous les yeux, Jeanne Adède et Étienne de Crécy, qui sont tous les deux sur la photo. Parce que le festival des Trois Éléphants, mine de rien, il y a pas mal d'artistes qui reviennent de manière assez récurrente, qui sont des artistes vraiment coup de cœur du festival. Et c'est le cas pour Jeanne Adède et Étienne de Crécy. Si j'avais une photo coup de cœur dans l'exposition, pour ma part, ça serait celle-ci. C'est une photo du groupe Girls in Hawaii, qui devait en plus revenir cette année sur le festival. C'est une photo qui a été prise par Ron Morris, qui est un photographe de longue date du festival également, où on voit du coup deux membres du groupe en train de faire de la balançoire au Jardin de la Périne, justement. Donc l'expo trouve un peu son sens ici en prenant des photos qui ont été prises ici même avec des artistes de renommée internationale. Donc là, on arrive devant quatre nouvelles photos, dont une photo qui est assez chouette aussi, qui est un gros tas de fûts de bière, parce que c'est aussi ça le festival, mine de rien. C'est aussi la fête, malgré tout. C'est un peu les coulisses du festival, ce que le public ne voit pas. On a mis en place un livre d'or. L'exposition est installée depuis quelques jours et il n'y a déjà plus beaucoup de place, mais si vous venez nous voir, n'hésitez pas. Il reste un peu de place malgré tout, de petites zones blanches pour laisser vos ressentis sur l'exposition.
Une exposition visible jusqu'à dimanche soir. Notre dernier épisode demain sera consacré à la programmation Art de la Rue qui vous attend ce week-end. Et c'est l'heure de la rubrique Initiative avec toi Emma, on retourne en concert et à Caussel-Vivien.
C'est San Salvador, un groupe de 6 personnes réunies pour vous présenter leur musique, mélangeant de nombreux styles. Ils seront présents demain, le vendredi 28 mai à 19h à la salle du FCC à Caussel-Vivien pour un concert d'1h30. Les réservations se font par téléphone au 02 43 09 19 89 ou à l'adresse mail culture@paysdecran.fr.
Et les inscriptions sont ouvertes pour les chantiers Argent de Poche à Laval.
Cette initiative est pour les jeunes de 16 à 18 ans qui souhaitent se faire un peu d'argent cet été en réalisant des missions dans différents cadres comme les petits travaux, du bricolage, du mobilier urbain, des espaces verts, de la peinture ou encore des inventaires. Si vous voulez vous inscrire, vous avez jusqu'au 2 juin. Il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription disponible sur le site de Laval Aglo et de le déposer au choix auprès du contrat de ville de Laval Agglomération, des services de jeunesse des communes, dans les maisons de quartier ou dans votre mairie.
Merci beaucoup Emma, et si on veut retrouver toutes ces informations, n'hésite pas à aller sur l'autreradio.fr. Et si vous avez d'autres initiatives, n'hésitez pas à appeler notre répondeur au 09 70 50 49... Non, 50 49 56, c'est ça, mais voilà, je le savais. Ah là là, mais ça se sent que c'est la fin de notre émission, justement, là, j'étais du local. Merci beaucoup Emma, et à très bientôt, du coup, on l'espère.
On espère, en tout cas, merci à tous, et puis à très bientôt.
Ah super, mais vous ne bougez pas, car à suivre, il y a à 19h, la sagesse de Tug, qui vous propose une discussion autour de cette phrase, la tâche du philosophe à notre époque est de délivrer l'homme de ses angoisses profondes. Je vous laisse y répondre avec lui à 19h donc. À 21h, c'est Rock My Soul. Et nous, on se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude. Et surtout, avec Marie, je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage. Invité interview. Voilà, c'est la JT du local.